Chapitre 11. Heureusement, la naissance de la première fille de Géraldine se déroula sans anicroche, surtout pour Simone, qui craignait de voir sa détermination faiblir en présence de Madeleine. Pendant toutes les heures qu'elles passèrent au chevet de leur amie d'enfance, les jumelles s'adressèrent la parole avec une certaine gêne. Simone évitait le regard de sa sœur et soufflait ses demandes. « Passe-moi le linge. Peux-tu aller faire bouillir de l'eau? Tiens-lui les épaules. » Étonnamment, même si Géraldine avait grogné « Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? » Simone avait défendu son choix en argumentant qu'elle ne courrait pas le risque de mettre un enfant au monde sans aide. Elle n'avait guère eu d'autre option que de lui expliquer la raison de l'absence de Joséphine. « Puisque vous pouvez pas payer la sage-femme, ça va être de même, Géraldine. J'ai pas le temps de faire le tour du village pour trouver quelqu'un de disponible, moi. Au moins, je sais que Maddie a pas les deux pieds dans la même bottine. » Prise dans ses douleurs, la parturiente avait lancé un regard frustré vers Madeleine, mais rapidement, les contractions l'avaient empêchée de rouspéter davantage. Dans un moment creux entre les contractions, alors que les jumelles étaient à la cuisine, Madeleine avait osé affirmer « Dommage qu'Omer choisisse pas un moment comme ça pour se mettre en valeur. » Simone avait tenté de ne pas répondre, mais cela avait été plus fort qu'elle. « Je trouve qu'elle fait pitié, Géraldine. » Un homme qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille, ça mine une femme à la longue. Il ne devait pas travailler avec Thibault cet été? C'était hasardé Madeleine en se pinçant presque devant cette conversation normale qu'elle avait avec sa sœur. Oui, mais Thibault a dit qu'il y avait toujours bien des limites à aider quelqu'un qui veut posséder lui-même. C'est vrai. Et pour la première fois depuis le 15 juin 1934, les jumelles avaient échangé un regard entendu, avant que Simone ne se détourne rapidement. Au bout de quelques heures de souffrance, le bébé Veillette fut déposé sur les seins de sa mère épuisée. Sans égard pour Madeleine, tout de même enceinte de plus de 6 mois, Géraldine remercia Simone avant que les sœurs ne sortent de sa petite chambre. « Merci, mon ami. Je te vaudrai ça. Peux-tu dire à Omer de venir me rejoindre? Tu vas sans doute le trouver dans le fond du champ à cuver son vin. » lança-t-elle d'un ton las. Les sœurs laissèrent les deux plus vieux enfants du couple dormir dans le salon. Gustave avait refusé jusqu'à la dernière minute de bouger. Il avait été d'une grande aide malgré son incompréhension de la situation. Allongé contre son frère François, le gamin avait le bras posé sur lui, comme pour le protéger. Désireuse de rentrer chez elle se reposer un peu, Madeleine salua doucement sa jumelle, qui s'empressa de s'éloigner vers le fond de la cour pour aller réveiller Omer. Dépitée, Madeleine marcha dans l'allée devant la maison, tout en pensant à cette nouvelle vie qui venait de commencer. Chaque naissance était un miracle du Seigneur, et elle se souvenait de presque tous les détails qui avaient entouré celle des enfants de Simone. Elles avaient pleuré, ri, ragé ensemble dans ces moments de souffrance. Comme elle priait le ciel de mettre au monde un bébé en santé lorsque son heure viendrait, la voix de Simone s'éleva derrière elle. « Merci de ton aide, Maddie. J'aurais pas été capable toute seule. » Cette dernière arrêta d'avancer et répondit sur le même ton. « Ça m'a fait plaisir. » Madeleine se dirigea vers sa maison, le cœur en joie et les yeux remplis d'eau devant ce développement dans leur relation. Freddy devrait être à la veille de partir en mer et Arthur se réveillerait bien peu de temps après. Malgré son épuisement et la lourdeur de son corps, la jeune femme eut envie de danser. Je pense que Simone commence à me pardonner un peu, sourit-elle en regardant le soleil qui se levait sur la mer endormie. Un jour, on va pouvoir renouer nos liens. Jacqueline Gérard avait beau être un homme sévère et rigoureux dans ses demandes, une faille étonnante semblait apparaître dans cette carapace sacerdotale. Et cette fissure se nommait Rosalie Taillefer. Depuis qu'il lui avait parlé de sa quête de prétendant devant l'église au mois de juin, le curé s'apercevait que son regard cherchait la jeune femme lors de ses prêches du dimanche, lorsqu'il prononçait des phrases sacrées. « Très chers, je vous exhorte tous à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Le curé se retenait de poser les yeux sur la rangée où se trouvait la famille du marchand général. Le 8 septembre, lorsque Rosalie lui sourit gentiment, bien assise entre ses deux frères, le curé déglutit difficilement en sentant un frétillement dans le bas de son corps. Lui qui avait toujours gardé un parfait contrôle de ses émotions en présence des femmes, même les plus belles, ne comprenait pas ce qui se passait dans son être. Il se détourna en fronçant sévèrement les sourcils. « Tout de même impertinente, cette jeune femme !» pensa Jacqueline, en tentant de contrôler le tremblement de ses mains. « Elle veut charmer tous les villageois et n'hésite pas à sourire ainsi à un homme de foi. Cela presse qu'elle se trouve un mari. » Pris dans son désir pour la jolie Rosalie, le curé de Lens-à-la-Joie ne remarqua pas le signe de la main que lui fit sa nièce Philomène, assise quelques bancs derrière. Pourtant, il promenait son regard bleu dans l'église et hochait la tête solennellement lorsque ses ouailles le saluaient. Philomène, qui se sentait fort importante depuis que son oncle était le curé du village, marmonna « Mon oncle Jacqueline m'a pas envoyé la main, c'est bien plate ça. J'ai dit à mes amis de regarder ce matin parce qu'il y en a qui disent que c'est même pas vrai que c'est mon oncle. Franchement, Philo. » répliqua Simone. « Tout le monde le sait. Ben pas Michel et Albertine en tout cas. Puis là, je suis sûre qu'ils rient de moi. » Les bras croisés sur le devant de sa robe du dimanche et le visage buté, Philomène en voulait au curé. Mais la pauvre ne pouvait savoir que Jacqueline devait concentrer toute son énergie à éviter de fantasmer sur Rosalie. Comme pour le titiller encore plus ce matin, la jolie marchande avait relevé ses cheveux bruns en un chignon haut qui dégageait son cou. Elle portait une robe à petites fleurs qui mettait sa poitrine bien ferme en valeur. Perdue dans ses pensées, Jacqueline décida de déployer tous les efforts afin de trouver un prétendant pour la fille de Gaston Taillefer. Afin de mettre ce plan en route, il attendit donc qu'elle vienne le saluer à la fin de la messe sur le parvis et il pria la jeune femme de revenir le voir au courant de la semaine. « Ah bon? » s'étonna Rosalie. « J'ai fait quelque chose de pas correct, monsieur le curé? » « Non, ma chère enfant, je veux juste discuter, disons, mercredi après le dîner. » Rosalie mordilla sa lèvre avec inquiétude et acquiesça, avant d'aller rejoindre ses parents et ses frères. Elle ne mentionna pas l'invitation du curé, convaincue qu'il voulait la sermonner concernant des paroles ou un comportement inadéquat. La jeune fille passa tout le reste de la journée à ruminer dans sa chambre, au-dessus du magasin général. Le nez plongé dans un magazine que son père avait reçu la veille, elle essayait de se concentrer, tout en songeant à son attitude envers Freddy Poirier. « C'est certain qu'il a entendu parler de mon intérêt pour un homme marié. Oh, mon doux! Pourtant, j'ai fait attention de ne pas montrer à personne que je le trouvais pas mal beau. Il y a juste mes frères qui m'ont agacé, mais je suis certaine qu'ils n'en ont pas parlé. Sinon, papa m'aurait sermonné, ça fait longtemps. J'aurais donc dû m'intéresser à Émile Pelletier aussi, comme ma mère me l'a suggéré. C'est pas de ma faute s'il est pas capable d'aligner deux mots quand il passe à mon comptoir. De toute manière, j'aime pas ça, les hommes aux cheveux blonds, moi. » La gorge nouée, la pauvre Rosalie tentait de lire un article sur un nouveau tissu utilisé dans la confection de draps de qualité. Mais jusqu'au moment de souper, elle passa de la position allongée à la position assise sans jamais trouver la paix de l'esprit. Simone était installée sur son balcon et elle dépeçait un lièvre que Tom avait capturé la veille en se rendant au bout du champ pour vérifier l'état de leur vache, qui souffrait d'une boiterie depuis le début de la semaine. « Elle veut pas se lever. Comment veux-tu que je la traie ?» avait grommelé Horace le matin avant d'aller à la messe. Même si Tom aurait préféré se rendre plus tôt auprès de l'animal, Simone lui avait fait comprendre qu'il n'était pas question qu'il manque l'office du dimanche. « À moins que tu aies le goût d'avoir une visite de Jacqueline à l'heure du souper ?» avait expliqué la femme en soulevant ses sourcils. « Pfff, je vais aller voir la vache cet après-midi d'abord. » avait aussitôt répliqué Tom, peu désireux d'inviter son beau-frère à partager leur repas du soir. Il en avait profité pour vérifier ses collets. Avec l'automne qui s'amenait, les petites bêtes sauvages s'avéraient plus faciles à capturer, puisqu'elles empruntaient presque toujours les mêmes sentiers. Quand Tom était revenu avec l'animal au bout du bras, Simone s'était dépêchée de s'en emparer et de le déposer sur la glace. « J'ai pas le goût que Philo le voie. » avait-elle déclaré. Elle va encore penser que c'est peut-être celui qu'elle avait attrapé l'année dernière, même si c'était un lapin échappé de chez les gingras, pas un lièvre. Alors le lendemain, Simone attendit que sa fille parte de la maison pour aller jouer avec Marie-Joseph et Gustave avant de s'installer pour dépouiller l'animal et ensuite l'éviscérer. Elle se fit la réflexion qu'il lui faudrait bien aller voir Géraldine, qui avait donné naissance à son bébé une dizaine de jours plus tôt. « Je sais que sa sœur est venue de bonne aventure pour ses relevailles, mais je veux m'assurer que tout le monde va bien. En même temps, j'ai hâte de savoir quel nom elle va lui donner à sa petite dernière. En tout cas, Gustave est de plus en plus crotté. On peut pas dire que sa tante est forte sur le lavage, elle non plus. J'imagine que c'est de famille, cette affaire-là. Georgette aussi a marié un bon à rien, d'après ce que j'ai entendu dire. » Le matin, quand Gustave était entré dans la cuisine d'été sans cogner, Horace l'avait empêché de traverser le corridor pour se rendre jusqu'à la cuisine. D'une oreille distraite, Simone avait entendu son beau-père ordonner au jeune garçon « Va te laver les mains dans le seau d'eau en arrière de la maison, Gustave, t'as l'air d'un petit cochon. Puis passe-toi-en d'en face aussi. On dirait que tu t'es pas lavé depuis un mois. » L'enfant avait ronchonné, mais était néanmoins ressorti de la maison, sachant fort bien qu'au contraire de chez lui, il devait suivre des règles précises chez les Laviolette. Depuis le début de l'été, Simone s'était attachée au petit Gustave, qui la faisait sourire souvent avec des réflexions anodines. Tom était longtemps resté de marbre devant le fils de Géraldine, mais petit à petit, son comportement envers Gustave avait changé. Il s'était amadoué et écoutait sérieusement les questions et les commentaires du gamin afin d'y répondre avec patience. Après s'être empiffré comme un goinfre au déjeuner, le gamin avait conforté Simone dans son projet de visite chez les Veillettes lorsqu'il avait déclaré naïvement « On n'a plus rien à manger chez nous. Maman fait juste nous donner de la soupe aux choux avec des patates et de la morue. » Inquiète pour les autres enfants de la famille, Simone avait simplement hoché la tête. « J'espère qu'Omer a des jobines au moins. » pensa Simone en jetant un coup d'œil à Béatrice qui lançait des roches dans une grosse chaudière de métal. Ayant terminé sa tâche, la femme lança à sa fille d'un ton sévère « Maman va mettre le lièvre dans le four, comme ça, il va presque être prêt à notre tour. On aura juste à le réchauffer pour le souper. Attends-moi ici, Béa, tu as compris? Après ça, on va aller chez Géraldine voir son nouveau bébé. » Parce qu'elle n'aimait pas laisser ses enfants seuls, Simone se hâta dans la maison pour déposer l'animal dans un épais chaudron de fonte. Elle ressortit par le côté et se dirigea vers son four à pain. Orientée de telle sorte que les vents quasi constants au bord de la baie ne soufflent pas la fumée ou des étincelles vers la maison, le gros four était imperméabilisé par le sel qu'avait ajouté Tom dans la terre lors de sa confection. Ce four permettait à Simone de cuisiner à l'extérieur jusqu'à la fin du mois de septembre, évitant ainsi de surchauffer la maison. Au petit matin, elle avait fait cuire une bonne fournée de grosses miches et la braise était encore bien chaude. Elle glissa son chaudron sur la grille et referma la lourde porte de fer. « Bon, une bonne chose de faite. Maintenant, on file chez Géraldine avant d'aller sur la grave rejoindre Horace. » Pressée de retrouver Béatrice à l'avant de la maison, la femme accrocha sa robe sur un clou qui dépassait de la rampe du balcon et ronchonna en voyant l'accroc sur le côté de son vêtement gris. « Oh, misère !» s'exclama-t-elle déçue. « Oh, misère !» répéta Béatrice en levant sa tête brune de son seau rempli de roches. Durant un court moment, Simone voulut la disputer, puis elle éclata de rire. Un éclat plein de bonheur, de joie et de liberté. Un rire qui s'était tu depuis la mort d'Éloi et qui, du même coup, réveilla chez la femme un sentiment d'apaisement. Elle allongea les bras et la gamine trotta pour s'y jeter. Ce n'était pas tous les jours que la mère de Philomène et Béatrice offraient son affection aussi librement, et l'enfant comptait bien en profiter. Quelques minutes plus tard, Simone marchait dans le troisième rang, en écoutant sa fille jacasser, tout en suivant des yeux un gros bateau qui s'éloignait vers l'île Bonaventure. « Encore des touristes !» grommela-t-elle en déposant Béatrice au sol. « Je pensais qu'avec l'été qui s'en allait, on aurait un peu la paix. » Il y a bien juste mon oncle Jean-Julien et Gaston Taillefer qui sont contents de les voir traîner au village. Depuis que le boulevard Perron avait été achevé, en 1929, les citadins de partout avaient découvert la beauté du paysage gaspésien. Chaque année, le nombre de visiteurs augmentait, ce qui agaçait la plupart des villageois, mais faisait le bonheur de Gaston Taillefer, fort heureux de l'achalandage au magasin général. Et depuis que Jean-Julien s'était mis à vendre des cartes postales, lui aussi s'extasiait sur les gens qui, de l'avis des autres villageois, envahissaient leurs plages et les embêtaient avec des questions innocentes sur la pêche à la morue. « C'est pas l'hiver qui vont venir ici, les messieurs et les mesdames de la grande ville, hein, ma fille? Ben non, c'est quand il fait beau et chaud et qu'on travaille comme des fous. En plus, ils chiolent tous que l'eau est glacée et que c'est impossible de se baigner, des fatigants, je te dis. » Même si Béatrice ne réagissait pas à ses questions ni à ses commentaires, ça faisait du bien à Simone de partager ses états d'âme. Avant, c'était avec Madeleine qu'elle aurait pu discuter des travers des uns et des étrangetés des autres. Alors, à défaut de pouvoir jaser avec sa jumelle, la femme jetait parfois son dévolu sur sa fille de 2 ans. Cette dernière était muette comme une carpe, à la différence de Philomène qui s'empressait de tout raconter à Gustave ou à Horace. Son aîné se serait certainement dépêché de lui reprocher le fait de ne plus pouvoir se baigner dans la mer, à moins que sa mère l'accompagne, comme si elle était un bébé lala. Au cours de l'été, lorsque Philomène avait insisté, parce que la température avait grimpé au-delà du confortable, Simone n'avait pas eu le choix de laisser ses filles courir dans l'eau avec les autres enfants du village, quand elle pouvait les surveiller. Mais plus question de permettre à Philomène d'aller sur la plage Grand Bois, où Éloi avait vécu ses dernières heures. Au bout d'une 30aine de minutes, Simone et Béatrice arrivèrent finalement devant la maison de Géraldine, aux murs usés par les vents qui transportaient les gouttelettes salées de la mer. Assis par terre, la couche visiblement détrempée béante sur ses cuisses, se trouvait Auguste, le fils de 16 mois de son ami. En les apercevant, le bébé tendit la main pour montrer une grosse poignée de cailloux. « Allô, mon petit Auguste? » le salua Simone en s'approchant en souriant. Trop heureuse de voir un être de sa grandeur, Béatrice courut s'accroupir près du garçon, qui lança ses roches vers les arrivantes. Il allait en mettre une à sa bouche quand Simone l'en empêcha. « Oh non, mon bonhomme !» lança la femme en lui donnant une taloche sur le poing. Aussitôt son visage sale rougissant de colère, l'enfant se mit à hurler en tentant de se remettre debout sur ses jambes rabougries. Bienveillante, Béatrice essaya de l'aider, mais le plus jeune garçon de Géraldine la repoussa avec rage. Simone se retrouva donc avec 2 bébés hurlants lorsqu'elle poussa la porte de la maison exaspérée. « Allô? » cria-t-elle. « Y a quelqu'un? Oh, taisez-vous un peu, Béatrice arrête de pleurer! » Sa fille continua à avoir la lèvre tremblotante, mais elle retint ses sanglots en entendant l'impatience dans le ton de sa mère. Auguste continuait à s'époumoner dans les bras de Simone, qui se lassa et le déposa assez rudement sur le divan défoncé. « Tiens, pleure tout seul. Bon, veux-tu bien me dire où est Georgette, la sœur de Géraldine? » La femme marcha vers le fond de la maison en retenant son souffle en passant près de la table de la cuisine où se mêlaient les restes du souper de la veille, du gruau séché dans des bols, des bouteilles de bagosse et des mégots de cigarettes dans une assiette. Arrivée devant la chambre, elle poussa la porte et fut soulagée d'y voir Géraldine dans son lit défait, adossée au mur, sa fille sur sa poitrine. « Allô, Géraldine? Oh! Allô, Simone! Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je venais voir comment allait ta belle-fille. Tu l'as appelée comment? »« Félicie, comme mon arrière-grand-mère. » Géraldine fit un sourire qui éclaira son visage là. Il était évident qu'elle n'avait pas pris soin d'elle depuis l'accouchement. Dans les plis de son cou, Simone apercevait des traces noires et elle portait la même jaquette que Madeleine et elle lui avaient enfilée après la naissance de Félicie. Gardant ses commentaires pour elle, la visiteuse rejeta ses cheveux derrière ses oreilles et s'approcha du bébé. C'était un poupon au visage rond et rougeoyant, avec une belle tête de cheveux foncés. « Allô, ma belle-fille? Elle est magnifique, Géraldine! » susurra Simone émue. Son amie hocha la tête en fermant les yeux, sans même sembler entendre les protestations d'Auguste qui continuait de crier dans le salon. Simone observa le bébé avec nostalgie, puis elle demanda, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu, « Ta sœur est où, coudonc? » « Georgette? » ricana Géraldine. « Elle est repartie, ça fait longtemps. »« Comment ça repartie? Elle t'aidait pas pour tes relevailles? Qui s'occupe des petits d'abord? »« Oh mère! Mon mari et ma sœur sont pas capables de se sentir, ça fait qu'elle a sacré son camp au bout de 2 jours. De toute manière, mon cher époux a rien que ça à faire, surveiller ses enfants. » Simone se retint de révéler qu'Auguste était seul à l'avant de la maison en train de manger de la terre et des cailloux quand elle est arrivée. Belle surveillance de la part de son père. Soucieuse du bien-être des garçons veillettes, elle demanda avec bienveillance « Toi, mon ami, comment tu vas? Tu te remets bien? Moi? répondit ironiquement Géraldine. « Maintenant que j'ai une fille, ça va bien mieux. Enfin, je vais avoir quelqu'un pour m'aider ici dans la maison, parce que des gars, c'est bon à rien. »
Simone grimaça en cherchant des yeux un balai pour nettoyer un peu la pièce sombre. Mais elle choisit plutôt d'aller vider le pot de chambre et de laver les couches sales qui s'amoncelaient sur le sol.
« Bon, écoute, je vais rester un peu pour te donner un coup de main, mais il est où, Homer? »
« Oh, il doit tourner autour de la maison, inquiète-toi pas, » ricana-t-elle. « Il est jamais bien loin, seulement inutile. »«
C'est juste que ton Auguste était assis en avant tout seul, puis j'ai pas vu Martial ni Félix Edmond. » Arrête de t'énerver pour rien. Je sais bien que ton gars est mort parce que personne ne le surveillait, mais nous autres, on n'est pas de même. »
Simone crispa sa mâchoire pour ne pas répliquer que Madeleine avait au moins l'excuse de s'être endormie en raison de sa grossesse. Elle sentit que la conversation tournerait au vinaigre si elle osait dire du mal d'Homère, même si Géraldine ne se privait jamais de le dénigrer. De toute manière, Simone avait toujours affirmé que l'argument de défense de sa jumelle lors de la noyade des lois était déplorable, alors elle n'avait pas l'intention de le valider à voix haute. Empoignant les déchets en retenant des haut-le-cœurs, Simone émergea de la chambre en se demandant comment son amie s'en sortirait avec un mari aussi fainéant. Prenant son courage à deux mains, elle rejoignit Auguste et Béatrice, qui s'étaient réconciliés et partageaient un bout de pain trouvé par terre. Retenant son réflexe de leur arracher cette nourriture des mains, Simone soupira et préféra sortir au plus vite pour aller jeter le contenu du pot de chambre dans le champ derrière la maison.
« J'espère qu'elle va se remettre sur pied bien vite, Géraldine. Elle a quand même 5 autres enfants qui ont besoin d'une mère. »